Quand on parle des livres liturgiques que nous devons utiliser en tant que président de l'Assemblée ou vous-même qui participez aux célébrations, ou aussi en tant que ministre, que ce soit pour la liturgie de la parole ou d'autres célébrations, il y a des choses que vous connaissez au sujet des livres que nous utilisons et d'autres choses dont vous n'êtes peut-être pas au courant. Lorsque nous utilisons le missel romain, que nous célébrons la mémoire d'un saint ou d'une sainte, ces célébrations sont à la fin du missel romain, dans la deuxième partie du missel romain. Et avant la célébration de chaque saint ou sainte, il y a toujours une courte biographie, environ 4 ou 5 lignes, qui résument la vie du saint du jour. Ce sont des choses qu'on ne dit jamais, mais que le président de l'Assemblée peut lire avant la célébration pour aider à préparer, pour connaître un peu les grandes lignes de la vie du saint. Et ça, c'est vrai non seulement pour la vie du saint, mais pour d'autres célébrations de fêtes, comme par exemple la célébration d'aujourd'hui, du 2 février, la présentation du Seigneur au Temple. Alors, si on prend le missel romain que j'ai déposé sur l'autel, donc avant même les prières du jour où ce que j'ai pu prier, nous avons récité au début de la célébration à l'arrière de l'église, il y a 4 ou 5 lignes qui résument la célébration d'aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire ce qui est écrit parce que ça m'apparaît apporter un bel éclairage sur le sens de notre rassemblement ce matin. Alors, on dit dans cette introduction-là qu'il y a plusieurs manières de désigner la célébration de ce jour. On l'appelle la présentation du Seigneur au Temple. On l'appelle aussi la purification rituelle de Marie. On la désigne aussi comme étant la fête de la lumière, ou même un autre terme que vous connaissez bien, qui a été utilisé pendant très longtemps, la chandeleur. On la désigne aussi comme étant la rencontre du Christ et de son peuple dans la personne de Siméon et Anne, qui étaient tous les deux au temple. Et enfin, et peut-être devrais-je dire surtout, parce que ça a une portée pour nous, il s'agit d'une célébration qui, ayant lieu exactement 40 jours après la solennité de la naissance de notre Seigneur, ça met un terme à toutes les célébrations entourant la naissance du Verbe fait chair. Et de fait, vous le savez peut-être, autrefois, c'était la fête qui désignait la fin du temps de Noël. D'ailleurs, et il y a une bien bonne raison pour ça, c'est que si on regarde dans les évangiles, l'épisode qui nous est présenté dans l'évangile d'aujourd'hui est bien le dernier épisode de l'enfance de Jésus. Les versets qui suivent immédiatement le texte que nous entendons aujourd'hui sont les seules allusions à un autre épisode de la vie de Jésus qui va se produire dans l'Évangile selon saint Luc encore, mais quand Jésus va avoir 12 ans, c'est-à-dire lors du recouvrement de Jésus au Temple. Et après ça, on va sauter 30 ans, donc une vingtaine d'années, disons, par rapport à quand Jésus a 12 ans. Donc, et on peut comprendre alors pourquoi la liturgie exprime cela aussi dans ce que nous faisons aujourd'hui. Nous mettons un terme aux célébrations entourant la naissance de Jésus. J'aimerais quand même ce matin m'attarder quelques instants sur le contexte historique de la célébration d'aujourd'hui, qui n'est pas tant tourné vers Jésus en tant que tel, mais bien plutôt vers ce qui était demandé par la loi mosaïque pour qu'une mère soit purifiée. C'est d'ailleurs une manière de désigner la célébration d'aujourd'hui, la purification rituelle de Marie, la mère de Jésus. En effet, on lit au livre du Lévitique, chapitre 12, qu'il était nécessaire pour toute mère ayant mis au monde un garçon ou une fille de devoir se présenter au temple pour être purifiée. Cette purification était beaucoup plus longue dans le cas de la naissance d'un garçon que d'une fille. Mais donc, Marie et Joseph respectent cette prescription qui était prévue dans la loi mosaïque. Et pour cette purification, ils présentent un couple de tourterelles, de deux petites colombes, telles qu'il nous est mentionné dans l'Évangile. Mais il y a plus aussi, il s'agit d'une réponse à ce qui est présenté aussi dans un autre passage de l'Ancien Testament, le livre de l'Exode au chapitre 13, celui-là, qui dit que tout premier-né devra être racheté du Seigneur, racheté du Seigneur pour pouvoir l'offrir au Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Luc évite de mentionner ce terme-là, qui est pourtant bien clair dans le livre de l'Exode. Tout premier-né doit être racheté. Il parle plutôt que tout premier-né de sexe masculin sera consacré. Les biblistes l'indiquent bien, c'est que Jésus ne pouvait pas être racheté parce qu'il est bien celui qui vient nous délivrer du mal, nous délivrer de tout péché. Et ça, même la prophétesse Anne le dit bien elle-même, puisque à la fin du récit, on dit qu'elle attendait, elle annonçait la naissance elle disait à tous à propos de la naissance de cet enfant qu'il venait pour la délivrance. Et le terme qui pourrait être utilisé de manière plus juste est justement pour le rachat. Donc, il me semble que c'est intéressant de voir que Jésus, qui est présenté au temple pour être racheté, n'en a pas vraiment de besoin et qu'en réalité, c'est lui qui vient pour nous racheter de nos péchés. Voilà une image, c'est comme une rencontre entre deux forces, la force du temple de Jérusalem, là où les premiers-nés étaient rachetés, et la force de celui qui vient au nom de Dieu pour nous racheter de nos péchés. Un événement aux dimensions là, eschatologiques, on peut très certainement le dire ainsi. Et donc Jésus vient pour, d'après aussi le passage de la lettre aux Hébreux, enlever les péchés de l'humanité. Donc, même l'auteur de la lettre aux Hébreux le dit, il est même le prêtre miséricordieux. Jésus est présenté au temple comme s'il était présenté au prêtre, mais en réalité, c'est lui qui est le prêtre miséricordieux. J'aimerais justement faire une interprétation contemporaine de ce passage que nous avons entendu aujourd'hui, et de l'appliquer à notre réalité chrétienne aujourd'hui. Il semble qu'il y aurait quelque chose à retenir de ceci. La présentation de Jésus au temple me fait penser d'une certaine manière à toutes ces familles chrétiennes qui présentent aussi leurs enfants pour la célébration du baptême. Eux aussi se présentent dans un lieu sacré comme celui-ci pour offrir au Seigneur leurs petits, mais aussi pour leur faire participer ce petit à la force de Jésus mort et ressuscité dans son baptême. Et ils le font aussi parce que, dans le cas de Marie et Joseph, ils le font pour obéir à la loi telle que ce qui est prescrit, bien que Jésus n'y était pas tenu. Et encore là, très souvent, j'entends de la part des parents auxquels je demande pourquoi ils font baptiser leur enfant, qu'eux-mêmes le font parce que c'est une tradition qui est importante dans leur vie. Et ensuite, j'ai Marie et Joseph qui présentent leur enfant Jésus, qui offrent pour sa purification quelque chose de très simple, deux petites colombes. Et d'après les biblistes, ça indique que leur condition était modeste. Et ainsi, ça me fait penser aussi à la plupart de nos familles qui présentent leur enfant pour le consacrer au Seigneur, le faire baptiser dans la mort et la résurrection de Jésus, qui, eux aussi, dans la plupart des cas, sont de conditions modestes. Et quand l'enfant et Jésus est présenté au temple, il rencontre deux individus qui me semblent bien représenter aussi les membres de notre communauté, qui, disons-le, est une communauté vieillissante. J'aime bien voir dans la personne de Siméon tous les membres de notre assemblée qui ont atteint un âge honorable, les hommes qui avaient tous un peu des cheveux blancs et qui attendaient la manifestation du Fils de Dieu, qui avaient été présents à l'Église, qui avaient contribué avec vos bras parfois, mais aussi par vos talents, à la vie de la communauté. Vous attendez cette consolation définitive de Dieu. Vous êtes un peu comme cet homme juste qu'est Siméon. Et la prophétesse Anne me fait penser à vous, chère dame, qui vous aussi avez atteint un âge assez avancé et qui passez vos journées à l'église, qui venez ici tous les matins, qui jeûnez, qui priez et qui attendez la délivrance du monde entier. Ainsi donc, une représentation aussi de notre communauté chrétienne. La Vierge Marie vous représente aussi, chers parents, qui vivez aussi vos propres difficultés de vie familiale. Et ainsi, c'est comme si cette parole de Siméon qui s'adresse à Marie, qui lui dit qu'un glaive va lui transpercer le cœur, c'est un peu une annonce qui vous est faite à chacune d'entre vous, chacun d'entre vous, que malheureusement, dans la vie, les événements font en sorte qu'il nous faut porter notre croix à la suite de Jésus le Rédempteur et de la Mère qui a participé à la rédemption de son Fils. Et enfin, comment ne pas souligner cette mention à la toute fin de l'Évangile qui sera répétée quelques versets plus loin au terme du récit du recouvrement de Jésus au Temple, à l'effet que l'enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse. Et je pense bien, chère maman et papa, que c'est bien ce que vous pensez aussi de vos enfants, vous en êtes bien fiers, et que dans la grande majorité des cas, ils sont en santé et que cela vous remplit de joie. Frères et sœurs, on l'a souligné au tout début de la célébration, cette célébration est d'abord et avant tout une célébration de lumière, car celui qui est présenté au Temple est celui qui est la lumière du monde. Cette lumière, nous l'avons partagée dans notre assemblée ce matin pour que nous soyons nous-mêmes lumière. Et à ce titre, on peut comprendre pourquoi le pape Jean-Paul II avait choisi, Saint Pape Jean-Paul II avait choisi cette date du 2 février, il y a plusieurs années de cela, comme la Journée mondiale de la vie consacrée, afin de rappeler à l'ensemble du peuple croyant que les religieux, les religieuses, les personnes consacrées qui ont donné leur vie pour le Seigneur font un peu ce que nous avons fait ce matin, mais le font d'une manière radicale. Ils se présentent devant le Seigneur avec leurs lampes allumées, leurs chandelles allumées, pour qu'elles restent bien fortes à celui qui est la lumière du monde. C'est une prière que nous pouvons faire nôtre, nous aussi, frères et sœurs, qui ne sommes pas religieux, religieuses, mais qui avons certainement un seul désir, c'est celui, un jour, d'être présentés au Temple du ciel pour la vie éternelle. Amen.